Aurélie Charron.
L'expérience commence.
En fait, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'exorcismes et de prêtres exorcistes aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années. Du coup, je me suis demandé pourquoi en fait les gens allaient encore voir des prêtres exorcistes, comment ça se passait aujourd'hui, les étapes d'une séance d'exorcisme.
Et toi, tu t'es senti déjà possédé ?
Je ne pense pas, non. Habité par la musique ou par d'autres choses, mais jamais, jamais par le diable.
Tout le monde parle du diable et personne ne l'a vu. Pierrick Mouton est allé rencontrer ceux que l'on va voir quand on se sent habité, qu'il y a des signes de possession. Est-ce que l'homme est diabolique ? Est-ce que les esprits des humains peuvent se faire traverser ?
La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas.
Le diable est toujours associé à un certain type de monde. Péché, sexe, argent, pouvoir, malheur, douleur, jouissance, perversité. Et ce sont des mots que sont souvent remplacés par d'autres, dont le diable. Donc dire à quelqu'un ce qui t'arrive, c'est le diable, ces mauvaises pensées, c'est pas toi qui les as, c'est plutôt le diable qui te fait penser à ça, en fait, permet à l'individu de s'échapper à la question la plus importante qui concerne son désir. Le diable interpelle le sujet sur son désir.
Amené à faire un deuxième mur et une deuxième porte, à faire un sas phonique, parce que les gens qui étaient dans la crypte s'enfuyaient en courant pendant qu'il y avait un exorcisme majeur. La personne vient parce qu'elle se sent possédée, occupée intérieurement par quelqu'un. Et il fait ceci, il dit cela, il l'empêche d'agir, par exemple. Les gens disent, le diable m'empêche de rentrer dans l'église. Ou je suis dans l'église et je ne peux pas ne pas tirer la langue au crucifix. Je ne peux pas ne pas insulter la Sainte Vierge.
L'exorcisme. Montre-moi ce que je veux voir pour que je puisse te l'enlever. Une création radiophonique de Pierrick Mouton, réalisée par Vincent Deck.
C'est vers l'âge de 16 ans que le comportement de ma fille a commencé à changer. Des troubles qui sont devenus de plus en plus fréquents. Elle voyait des choses que moi je ne voyais pas. Après un séjour en clinique, le médecin psychiatre qui la suivait m'a dit « Votre fille est hystérique. Elle a également une tendance à la perversité. Pour une mère, c'était très difficile à entendre. Un jour, je reçois un coup de téléphone. C'était ma fille. Pendant près d'une heure, elle m'a injuriée. Quelques jours plus tard, nouveau coup de téléphone. On aura ta peau. qui suis catholique pratiquante, je ne pouvais plus prier. La Bible m'était devenue insupportable. Je ne pouvais plus entrer dans une église. Comme s'il y avait un mur. J'étais comme repoussée. Je sentais toujours cette chose dans mon ventre qui exerçait un perpétuel mouvement de rotation. J'ai consulté deux psychiatres qui m'ont assuré que je ne présentais aucun trouble particulier. Le plus terrible, c'était cette voix intérieure. Une voix totalement indépendante de mon être qui m'invectivait puis se faisait douce. La voix me persuadait d'aller quelque part où je trouvais la plénitude du bonheur. Je devais lutter, me cramponner pour ne pas céder. C'est en rentrant un soir à la maison que tout a empiré. Je me sentais prise par les épaules, projetée, plaquée contre un mur. J'étais habitée. Quelqu'un d'autre que moi était en moi et agissait contre ma volonté.
Bien à l'accueil Saint-Michel, service de l'exorcisme de l'Église catholique. Vous pouvez nous contacter du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h, excepté le jeudi matin. À bientôt.
Nous sommes 15 personnes. Donc ils reçoivent les gens avant qu'ils les reçoivent. Donc on a une écoute qui est très, très large. Et les gens disent des choses là, et ils disent des choses moi, et ça permet d'avoir un avis qui n'est pas une subjectivité, mais qui est vraiment une écoute. Et c'est gratuit, hein. On ne fait pas payer. Entrez. Chapelle, vous voyez, elle est voûtée, elle est dans le sous-sol. C'est une chapelle qui n'a pas de fenêtre, bien sûr. Vous avez une moquette. Pourquoi une grosse moquette? Vous voyez, elle est épaisse, elle est moelleuse. Vous le sentez bien avec vos pieds. Parce que quand les gens sont sur ces chaises, quand il y a un exorcisme, eh bien, il y a une prière, une imposition des mains. Et quand nous faisons la prière, il peut y avoir des manifestations démoniaques. Le démon, qui est un ange, n'apprécie pas du tout le rapprochement entre Dieu et les hommes, hein. Donc c'est une sorte de destruction d'une relation et d'un amour. Donc le démon est un tueur de l'amour. Et dès qu'il va y avoir une élévation dans l'amour, il va tout faire pour l'interrompre, la briser ou la démolir. Vous savez, c'est à la fois du sadisme, de la cruauté, de l'égoïsme, du narcissisme, de la violence, de la méchanceté. Il y a tout ça réuni. Comment le démon il fonctionne de façon ordinaire? La tentation. Comme le font les publicitaires pour vous soutirer un abonnement à un réseau social ou à un abonnement téléphonique. Il vous dira, il fait une suggestion pour provoquer une délectation. Et quand vous délectez, votre cerveau ne fonctionne plus, hein. C'est le cœur le palpitant qui fait des heures supplémentaires, donc vous cédez. Et donc vous signez, donc vous consentez. Donc suggestion, délectation et consentement.
Ils viennent vous voir pour...
Et ils demandent de l'aide, parce qu'ils sentent qu'ils ont des troubles en eux. Le bien qu'ils veulent faire, ils ne le font pas, ou bien ils ont des troubles physiques. Ils peuvent sentir monter en eux des rages et des colères contre Dieu qui ne sont pas d'ordre de leur personnalité. Donc le démon peut troubler les humeurs. Donc s'il a une humeur de troublé si violente, il peut y avoir des troubles psychologiques, même psychologiques et psychiatriques. Le démon peut perturber gravement. Et puis il y a les addictions, il y en a qui ont ouvert des portes ouvertes. Mais il n'est pas bon d'être accro de son écran, de ne plus manger à table et de manger dans sa chambre, de vivre la nuit entre 2h et 3h du matin, de regarder des mangas ou de faire des jeux de rôle. À la fin, vous tombez dans une aliénation.
Ça, c'est pas bon pour vous?
Ah ben, j'ai des dégâts considérables. Je vous assure que ça met en place une mentalité. Vous êtes dans victoire-défense, perte-gain. Il n'y a même plus de notion de bien et de mal. Parce que dans certains mangas, même les méchants gagnent et l'emportent.
Vous n'aimez pas les mangas, alors?
Dès qu'on me dit « j'ai regardé des mangas », je suis alerté parce que j'ai un type de comportement qui est derrière. Donc, je n'ai pas lu de manga, mais je vois que quand il y a ce genre de problème, c'est que les sardines prennent la forme de la boîte. Donc, si vous êtes fait emballer par des mangas, vous avez une tronche qui va avec votre emballage. On prend la gueule de la forme qui vous contient. Hein.
C'est quoi les autres comportements que vous pouvez voir?
Bah, et ceux qui fument du shit. Il y en a qui pètent un câble avec un seul joint. Mais que de schizophrénie, de paranoïa, hein. Ouh, aïe, 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 aïe. La pornographie, addiction à la pornographie, ça fait des dégâts. Le démon n'a pas besoin de se déplacer pour faire les dégâts. Mais dès qu'on est dans Harry Potter et quand on s'évade, souvent les gens, ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils rêvent. Ce que j'aime, c'est ce que je rêve. Il est bien ce type. Ce que j'aime chez lui, c'est ce qui me plaît chez moi. Non, on est dans la vérité. Et la vérité rend libre. On n'est pas dans la gentillesse, hein. Quand on vient voir l'exorciste, on n'est pas dans la gentillesse, hein. On est dans la vérité. La vérité consiste à faire la lumière, à mettre de la lumière dans la vie des gens. Moi, je vous le dis, je ne suis pas chargé de vous y faire croire. Mais les gens qui viennent chez nous, souvent, ils ont une demande d'aide. Et ils ont conscience que les forces naturelles ne sont pas les seules à expliquer l'existence de l'humanité. Lisez les évangiles, il n'y a que des miracles. Que des démons qui sont chassés. Jésus a dit à des porcs, à des démons de partir, ils sont partis dans les porcs. Le troupeau de porcs a été détruit.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu vous a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance du bien et du mal.
Où Dieu a lancé dans la vie une force de vie absolument extraordinaire, inextinguible, et une puissance, c'est normal qu'il y ait une contre-force qui se dégage en même temps. Du moment qu'il y a Dieu, je pense que, enfin, c'est mon raisonnement à moi, Maurice Bello, hein. Du moment qu'il y a Dieu, quelque part il y a de l'anti-Dieu. C'est inévitable, sinon il n'y a pas de vie. Qu'est-ce qui nous maintient en vie? C'est ce combat entre la lumière et les ténèbres, entre une force de vie et une force de mort.
Le péché était grand sur la terre. Ils engendrèrent des géants, et tout ce que la terre produisait, les grands poissons, le ciel avec tout ce qui poussait, les fruits de la terre et tous les arbres, toutes les bêtes sauvages et les reptiles, tout ce qui rampait sur la terre. Et ils observèrent tout, toute action violente et expression, mâle et femelle. Ils engendrèrent géants et monstres à la suite de croisements. Et la terre fut corrompue de son sang. Et par la main de géants qui ne leur suffisaient pas, ils cherchaient à dévorer. Beaucoup. Cette vision représente la malédiction et le malheur. Je suis celui qui a confessé le groupe entier de parias que j'irai rejoindre. Nous mourrons ensemble et marquerons la fin.
Je me suis réveillée en sursaut. C'était invisible. Je voulais hurler, prévenir mon ami qui dormait dans la pièce voisine. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je sens encore ses bras, sa tête contre la mienne. Je l'ai repoussé sans difficulté. Cela m'a d'ailleurs étonnée. C'est alors qu'une amie m'a convaincue d'aller consulter un prêtre exorciste.
Comment ça se passe, justement ?
Ben, tout simplement, c'est une liturgie. Le prêtre met une aube, une étole, comme pour dire la messe. La personne est assise, elle ne fait rien, silencieuse, et nous commençons à prier.
Donc là, elle crie ou elle gémit ?
Mais non, mais non, pas du tout. Oh, pas du tout, pas du tout. Oh là là, c'est très différent. On peut avoir très bien fait une prière pendant trois quarts d'heure, il ne se passe rien. Mais on aura dit quelque chose qui a dû égratigner le démon, elle explose. Donc il faut faire très attention à une chose. C'est qu'il y a des maladies psychologiques qui peuvent avoir le même aspect qu'une possession. Et par exemple, l'hystérie correspond quasiment à la possession. Alors nous avons des subterfuges que je ne vous dirai pas, parce que je n'ai pas envie de me trouver face à une personne manipulatrice, mais nous avons des moyens. Puis deuxièmement, quand il y a une possession, la personne ne se souvient pas vraiment de ce qu'elle a fait. Et puis il y a des signes objectifs de possession. Objectif.
Donc c'est quoi ces signes ?
À 95%. 1. Changement de voix. Une voix qui n'est pas de l'ordre humain. Elle n'est pas forcément hurlante, mais c'est une voix dans laquelle il y a rancœur et malice. Tant qu'on n'a pas assisté à un exorcisme, on s'est distingué. Deuxièmement, une violence, une force qui peut soulever un objet très lourd sans aucune difficulté avec violence. J'ai assisté à des projections de chaises qui étaient fracassées au milieu de la pièce avec une violence telle, mais les chaises étaient après intactes. J'ai assisté aussi à des informations privées appartenant aux personnes assistant à l'exorcisme, mais qui étaient connues du possédé et qui a dit à haute voix, par exemple, à l'exorciste en question, « Toi, croissant au beurre, tais-toi. » On demande à la fin à la personne, « Mais pourquoi il t'a appelé croissant au beurre ?» Et l'autre, tout gêné, dit, « Mais je me suis déjà confessé. L'autre jour, je rentrais de Rome et j'ai mangé, je sais pas, 8 croissants au beurre. »« Ah bon ?» Donc vous voyez, ce que vous ne mesurez pas...
Ça, c'est les 5 critères alors de...
Non, je n'ai pas donné les 5 critères. Je vous ai donné 1, force surhumaine. 2, changement de voix. 3, connaissance de secret d'intimité. 4, haine de la religion, blasphème, insulte, grossièreté. Je suis très triste, par exemple, pour les femmes. Il y a des comportements, c'est quasiment les danses macabres des tympans d'église quand on voit les démons qui amènent les gens en enfer. La violence est toujours un échec.
Il y a de la violence dans vos séances d'exorcisme, justement.
Oui, mais elle est étrangère. Elle n'est pas causée par l'exorciste. C'est pas moi qui cause la violence. Bon, regardez, par exemple, quand on dit « Tu es saint, Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. » Mais en face, c'est pas accepté. Hein. La présence démoniaque qui habite la personne va être furieuse contre cette expression. La question que vous me posez, c'est d'où vient le mal qui est autour de nous ? Comment se fait-il que le mal que vous n'aimez pas, il ait lieu ? Comment se fait-il que vous n'arrêtiez pas le mal et la guerre ? C'est que les hommes n'ont pas les moyens de le faire. Ça les dépasse complètement. Comment expliquez-vous qu'un gentil bébé, magnifique, devienne un jour Adolf Hitler ? Comment vous expliquez ça ? Comment expliquez-vous que des gens aient du plaisir à massacrer des innocents et qu'ils disent... Ça, c'est la vérité des massacrés les innocents. Comment se fait-il que le faible ne soit pas protégé ?
Musée du Louvre, aile Richelieu, salle 230. Une petite statuette de bronze, d'environ 15 cm de haut, attire les regards de la foule. Derrière l'épaisse vitre, une créature, mi-homme, mi-serpent, méduse le visiteur. Son corps, recouvert d'écailles, laisse apparaître de grandes dents et des yeux globuleux. Son aspect est menaçant. Main droite levée, il est prêt à frapper. Cette statuette, c'est Pazuzu, le roi des démons.
Si on cherche les origines des démons, c'est-à-dire au sens moderne du terme, quand aujourd'hui on va faire un exorcisme, on va chasser des démons, on se dit d'où ça vient, dans le Nouveau Testament il y a des démons, d'où est-ce qu'ils viennent? L'histoire, l'origine des démons, elle nous est racontée dans le livre d'Enoch. L'histoire se passe il y a très très longtemps, avant le déluge, peu de temps après la création du monde, Dieu crée toute chose, et il finit par créer l'être humain, Adam et Ève, donc les humains sont sur la planète, et ils ont pour mission de se multiplier, d'avoir des enfants. C'est ce qu'ils font, et du coup ils ont des enfants, ils ont des garçons et ils ont des filles. Et l'histoire nous dit que ces filles étaient jolies. Et les anges qui sont dans le ciel regardent, ils se penchent, ils regardent sur terre et ils trouvent ces filles qui sont jolies et ils les désirent. Et ils ont envie de descendre sur terre pour s'unir à elles. Donc du coup, ils descendent sur terre et c'est ce qui se passe. Ils s'unissent aux femmes et ils ont donc une progéniture des enfants qui sont, le texte nous dit, toujours dans le livre d'Enoch, ce sont des géants. Et ces géants, nous dit le texte, font 3000 coudées de haut. 3000 coudées, ça fait 1500 mètres de haut. Ils sont grands comme des montagnes. Et le texte nous dit que très vite, ils épuisent toutes les ressources de la planète. Ils mangent tout. Et du coup, ils finissent même par s'entre-dévorer. Enfin bref, ça devient catastrophique. C'est un véritable cataclysme. Et il faut donc intervenir. Et la Terre crie et Dieu, à ce moment-là, est interpellé. Et il décide de détruire. C'est là qu'intervient le déluge, où Dieu va couvrir la planète par de l'eau. Et l'idée, c'est de purifier la planète et de détruire notamment les géants. Les anges déchus, eux, sont des êtres spirituels, ils sont enfermés, ils sont enchaînés. Les géants, eux, sont détruits et leur âme, leurs esprits continuent à errer sur Terre. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des esprits qui errent sur Terre, qui sont privés de leur enveloppe charnelle et qui donc, de fait, sont susceptibles d'entrer dans d'autres corps, les corps d'êtres humains. Et c'est là qu'il y a l'idée qu'il y a des démons dans les corps et qu'il faut chasser les démons dans les corps, etc. Et c'est la situation actuelle jusqu'au jugement dernier, donc jusqu'à la fin des temps. Et c'est comme ça qu'on a encore des démons sur la planète qui sont donc sous les ordres de Mastema ou Satan, selon le nom que vous voulez donner au chef des démons.
Que l'homme n'est pas diabolique, mais c'est ce qui fait rentrer dans son cœur. Qu'est-ce que vous faites rentrer dans votre cœur? Et c'est toujours la même chose, ça conduit toujours au même résultat. Haine, dispute, rancune, refus de pardonner, violence, méchanceté, guerre. Ou bien, dans l'autre sens, tristesse, découragement, mépris de soi, suicide. Voilà. Des mots, ils mettent de la rancœur dans la cœur des gens. De la rancœur, de l'amertume. Mais c'est pas possible d'avoir de laisser entrer dans son cœur ces choses-là. Il faut chasser ça. Il y a des gens qui font des thérapies, du yoga, du sasso, de machin. Mais ça, c'est du plâtre. C'est du plâtre, ça. Le jeu est un autre, hein. Le jeu est un autre, hein.
mon ami qui me soutenait m'a dit que j'avais parlé, que j'appelais ma mère. Quand tout a été fini, je suis allée me reposer. J'entendais au loin des cris d'oiseaux, tristes et lugubres.
Mon premier mouvement face à cette imagerie, on va dire, de Satan, mais aussi de l'enfer, etc., c'est que quand même, c'est vraiment une construction politique. Parce que les méchants ne seront pas assez punis sur cette terre, ou que les bons ne sont pas assez récompensés, on va leur promettre une récompense ailleurs qui va les rendre très dociles ici-bas, et on va promettre aux autres une punition ailleurs qui va les rendre aussi dociles ici-bas. Enfin, bon, parce que finalement, la meilleure manière de rendre les gens moraux, c'est de les menacer de punition et de les attirer par des récompenses. Or, ça, c'est quand même profondément immoral. C'est-à-dire, en fait, si je fais le bien uniquement pour avoir une récompense, où est le bien ? Il faut faire le bien, pour lui-même, et pas pour autre chose. Il faut grandir. C'est-à-dire, la conception dans laquelle il y aurait toujours des récompenses et des punitions, c'est vraiment une conception enfantine. C'est vraiment un enfantillage moral, on va dire. Et donc, il y a un moment dans la vie, il faut être grand, il faut accepter que non, il n'y aura pas de récompense, et non, il n'y aura pas de punition. Donc, voilà, cette conception de la morale, cette conception pénale, elle est dangereuse parce que, d'abord, elle donne le sentiment, qui est encore aujourd'hui très répandu, que si on est riche, plein de prospérité, etc., c'est qu'on a été baigné par Dieu. Et que donc, s'il y a des gens qui sont misérables, qui sont malheureux, etc., ben c'est leur faute. L'idée de la punition, c'est l'idée que je pourrais faire payer un mal qui a été subi par quelqu'un, un malheur, en faisant mal à l'auteur du mal. C'est une pensée magique, en fait. C'est carrément de la pensée magique. Vous voyez, c'est dans cette vision pénale du monde, il y a quelque chose de magique. Et donc là, dans ce premier mouvement, je vais aller jusqu'au bout de ce premier mouvement, je dirais Satan n'existe pas. En même temps, il y a bien, en effet, des possessions. Je sais, par exemple, que le théologien Paul Tillich, qui est vraiment un théologien libéral, très rationaliste, etc., lui, il a vu la montée du nazisme. Il a dit, mais c'est une possession, il y a quelque chose de satanique là-dedans. Et ce qui est satanique, c'est la capacité de destruction irrationnelle. C'est-à-dire, détruire quelque chose, juste casser une vitre pour aller voler quelqu'un, je dirais, c'est encore un comportement rationnel. Il y a un but, il y a un moyen. Bon. Mais détruire pour détruire, ça c'est ce dont les humains sont capables. Ils sont capables sur les autres et sont capables même sur eux-mêmes. Les humains sont capables de se faire du mal pourvu d'en faire aux autres. C'est ça qui est tout à fait impressionnant, on va dire. Et donc, il fait penser qu'il y a en effet des forces de possession, des forces diaboliques, des forces de néantisation, de destruction, oui, des forces de division qui séparent ceux qui étaient unis, des forces de calomnie. L'idée théologique, c'est que Satan, c'est le procurateur, hein, celui qui accuse, c'est l'accusateur, celui qui devant Dieu nous accuse. Je ne dis pas que ça n'existe pas, d'une certaine manière. Ça existe, c'est plutôt, je dirais, le fait d'en faire une théologie. C'est-à-dire en faire une construction rationnelle qui, là, est complètement à côté de la plaque parce que nous n'en savons rien. Nous n'avons aucune expérience de Satan dans le ciel ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, c'est des constructions qui sont quand même des constructions très, très imaginaires. Mais ces constructions imaginaires, elles ont une puissance qui revient régulièrement. Et l'imaginaire n'est pas sans effet dans la réalité. Ça a une puissance énorme. Et entre autres, cette puissance de destruction. Satan, c'est une manière de déresponsabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, déjà dans le mythe adamique, dans Adam et Ève, le fait qu'il y ait Satan, ça induit l'idée que le mal n'est pas venu uniquement à la suggestion d'Ève toute seule qui invente ça. Non, elle a été séduite par quelqu'un d'autre. Et je dirais qu'une certaine manière, c'est important aussi de pouvoir externaliser, de pouvoir justement chasser les démons, de pouvoir les sortir de soi d'une certaine manière. De la même manière que peut-être parfois un démon peut entrer en soi, c'est ce qui est dit de Judas, comme réellement un cas de possession démoniaque. Donc le démon entra en lui. Bon. Bien de la même manière, sortir les démons, les chasser. C'est une manière de les externaliser, une manière de dire « mais non, mais c'est pas moi ». Thank you.
Je pense que c'est pas pathologique, ni hystérique. Sa force, sa paranoïa, ses hallucinations, ce sont les symptômes de la schizophrénie. On sait pas vraiment comment ça fonctionne. Ça apparaît souvent à la préadolescence. En tout cas, elle en a tous les symptômes. Hyperactivité, dépression, troubles de l'humeur. Il arrive parfois que cela provoque d'étranges hallucinations. On nomme ce trouble possession somnambulique. Autrefois, quand la croyance au diable était forte, l'entité possédante était généralement un démon. Ça porte le patient à croire que son corps est envahi par une présence étrangère, par un esprit, si vous voulez.
Quand les gens nous appellent, ils viennent plutôt avec une série de problèmes qui sont dans leur existence. La plupart du temps, ils ont essayé de les traiter de différentes façons, avec des médecins, avec des psys, toutes les sortes de psys possibles, depuis le psychiatre jusqu'au psychologue, en passant par le psychanalyste et le psychothérapeute.
Ils viennent vous voir en vous disant « je suis possédé par ou « je suis diabolisé » ou comment ça se passe ?
Il y a finalement assez peu de gens qui viennent en disant vraiment « je suis possédé » ou « je suis diabolisé ». Il y en a, évidemment. Disons qu'ils viennent plutôt avec l'expression d'un symptôme. Par exemple, un mot qu'on utilise beaucoup en français et qui pour moi est très symptomatique, c'est quand on dit « c'est plus fort que moi ». Quand il y a une démonisation de quelqu'un, il peut vraiment rien y faire par l'autosuggestion, par un travail sur sa petite enfance, etc., etc.
S'il y a une possession, c'est le démon qui va s'exprimer. Donc on se trouve en face du démon. Et notre seul pouvoir d'exorciste, nous, c'est quoi? Nous avons reçu de l'évêque, et c'est là qu'il faut être clair, qu'est-ce qui nous est réservé et qui fait qu'on est exorciste. Grand ou petit exorciste. C'est que nous avons l'autorisation de nous adresser directement au démon. Je t'exorcise, tout esprit impur, désormais n'est plus l'audace serpent rusé de tromper le genre humain.
Le fameux valet rétro satana.
Oui, retire-toi. Eh bien c'est ça, c'est uniquement ça. On termine, on dit toujours, on lui fait une grande prière, mais elle est impérative. Je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, retire-toi.
Alors quand il y a une délivrance, il peut y avoir des tas de manifestations, effectivement. On enseigne bien les gens à faire la différence entre des vraies manifestations démoniaques et puis des épisodes hystériques. Mais en fait, dans la façon dont nous, on le pratique, on bloque ces manifestations-là. On les laisse pas se déployer. Parce qu'en fait, la personne, elle commence à avoir ce type de manifestation quand elle se met dans des états de conscience légèrement modifiés, de type auto-hypnose. En fait, nous faisons le distinguo entre ce qu'on appelle la démonisation et puis la possession. La possession, ça impliquerait l'idée que la totalité de la personne est vraiment sous contrôle d'une puissance extérieure. En fait, c'est assez rare. Moi, j'en ai vu deux ou trois en 20 ans de pratique. Parce que quelqu'un qui serait en totalité sous influence démoniaque, en fait, il pourrait très rapidement se suicider ou faire des choses tellement folles que sa vie pourrait pas durer très longtemps. Mais vous allez pouvoir avoir des gens qui ont donc les séquences classiques qui peuvent être sous démonisation. Ça peut être des séquences liées à la sexualité, tous les sous-produits de l'angoisse. Ça nous oblige, si vous voulez, à travailler main dans la main avec surtout avec des psys, notamment pour pouvoir faire la distinction entre des types de dépression purement psychologique, d'autres dépressions qui seront liées à une puissance de mort vraiment présente dans la personne. Et là, pour nous, il s'agit d'une démonisation, il ne s'agit pas d'une pulsion de mort. Une fois qu'on a prié, qu'on a chassé cette puissance, la personne n'est plus dépressive. Et c'est juste immédiat, comme un corps étranger, si vous voulez, qui est expulsé.
A-t-il fini que la jeune femme se lève en hurlant. Je suis possédée par le démon. Son visage est méconnaissable, défiguré, les yeux exorbités. Elle se lève et dit au prêtre d'une voix grave, presque bestiale, « Exorcise-moi si tu peux. » Le prêtre, qui ne semble pas surpris par sa réaction, lui demande de se calmer. La jeune femme hurle de plus belle. Sa voix devient gutturale et s'entrecoupe de grognements. Le mari, assis à côté, observe la scène, tétanisé. Notre Père qui êtes aux cieux, protégez-nous du mal. Va des rétro, Satana. Scande l'exorciste en pressant le crucifix sur le ventre, le front et le visage de la possédée. La jeune femme se jette à terre, renversant les bancs, en poussant des cris de folle.
Lorsque sont en contact un prêtre exorciste qui reçoit un être qui vient pour un problème et qui se met à convulser, on se rend vite compte qu'on est comme sur une scène. Une scène dans laquelle il y a des rôles et des lieux de jouissance différents selon qu'on se place du côté du prêtre exorciste ou qu'on se place du côté de celui dont le corps jouit. Et c'est étonnant de voir comment ça donne lieu aussi bien à des manifestations de fascination comme de rejet. Le prêtre exorciste met en scène, en fait, une lutte entre deux instances supérieures, une divine qui est censée être au-dessus du diable, mais l'autre quand même qui est une instance supérieure et maléfique. Donc, si la personne qui se dit possédée croit vraiment en l'existence d'un diable à l'intérieur de son corps, elle va donc subir ou être le terrain d'une lutte entre la puissance divine et la puissance maléfique. Cela fait d'elle un terrain d'une lutte des êtres supérieurs et donc c'est un terrain qui met ce corps comme un lieu de jouissance. Mais c'est aussi un corps qui du coup prend une importance capitale et donc du coup ça stigmatise davantage que ça ne soulage. L'exorciste détourne tout de suite de la possibilité d'associer librement et de dire de quoi a-t-elle mal en donnant le nom du diable comme la cause de son malheur. C'est ça le problème, justement. C'est que quelqu'un a dit ce que tu as, c'est le diable. Le prêtre exorciste sait déjà à l'avance ce que la personne a. Moi, je ne pars pas de cette hypothèse-là, évidemment. J'observe, mais le plus important, c'est d'essayer d'écouter, d'entendre. Et ça, c'est quelque chose qui manque dans l'approche des possédés, c'est qu'on est pris par le regard. Et il ne faut pas tant s'intéresser à ce qui se passe pendant les crises, il faut s'intéresser à ce que la personne dit en dehors des crises. Et le problème, pour moi, des gens qui s'attachent à voir, à regarder les possédés, c'est qu'on ne les entend plus. Et comme moi, je serais plutôt partant pour que on les observe pas, qu'on les entende plutôt.
Est-ce que ça fait partie aussi du processus pour vous, une crise comme ça, de gens qui vont...
Non, ça fait partie du processus. Ça fait partie, comment dirais-je, de la réaction qu'a une personne si elle a un tempérament hystérique. Comment dirais-je, c'est sa façon de manifester une souffrance qu'elle ne peut pas dire. Moi, contrairement à ce que je pensais au début, c'est pas forcément du cinéma. C'est une façon de se mettre en scène, mais c'est surtout pour moi, c'était une façon de dire, j'ai pas de mots pour dire ce que je ressens. Donc, ben, je roule par terre, je crie. Elle exprime sa souffrance en manifestant un geste physique, quoi. Mais c'est jamais, non, on n'a jamais. Je me souviens de la première caisse qu'il y a eu dans l'oratoire, par contre, ça oui. J'arrivais, enfin, donc ça m'a beaucoup impressionné. Et je suis sorti, en fait. Mon réflexe a été de quitter les lieux. Notre théorie à ce moment-là était de dire plus il y a de spectateurs, plus il y a de spectacles. C'est-à-dire si vous êtes, si je suis moi tout seul avec quelqu'un, s'il y a quelqu'un d'autre, c'est déjà plus compliqué. À deux, on ne fait pas de cinéma, enfin beaucoup moins. S'il y a 10 personnes, 15 ou 20, ou comme j'ai vu en Italie, une église pleine, évidemment, là, les crises sont spectaculaires et épanouissent toi, quasiment pas toute la foule, mais beaucoup là.
C'est du théâtre.
Oui. Non, j'ai vu des tas de gens faire des crises, au pied de mon fauteuil ou à l'oratoire surtout. Mais, c'est-à-dire des crises s'enroulées par terre en criant des trucs bavant un peu, mais pas la bafouille récente qu'on trouve dans le film. Hein. Ceux qui voulaient absolument avoir un exorcisme leur demandaient justement de me faire un coup de bafouille récente. Peut-être, mais ben, non, personne. On entoure ses critères, enfin, ou ce que dit Don Amort, là, qui voyait des clous, comme par hasard, dégueuler de la personne qu'il était en train d'exorciser. Des clous, évidemment, de la croix du Christ, hein, pas n'importe quel clou, pas le clou du charpentier d'à côté. Alors ça, non, j'ai jamais bien compris ça, là. Enfin, moi, j'ai pas vu, en tout cas. Par contre, des gens qui se roulent, oui, ça, ça. Mais c'était pour moi un peu un automatisme. Comment dire, du moment qu'on dit quelque part, une personne entend va des rétro Satanas, elle se roule par terre. Quand on dit va des rétro Satanas, ça convulse. Alors ça, j'en ai fait l'expérience une fois.
Well, the doctors say I shouldn't. But thank God, my will is weak.
J'ai personnellement vu avec intérêt et une certaine frayeur le film de l'exorciste, parce qu'il est très bien fait, mais j'ai jamais vu des gens avoir tous ces signes que l'on dit sur la possession démoniaque. Je suis bien étonné d'imaginer quelqu'un faire tout ça. Et quand on demande aux gens s'ils l'ont vraiment vu faire et la tête tournée, et la lévitation, et parler plusieurs langues, on arrive très vite à se rendre compte qu'ils en ont entendu parler, ou ils ont pu comprendre, et je n'arrive pas à croire comment quelqu'un peut avoir vu tout cela. Je pense plutôt que c'est la marque de l'effet que l'idée d'être face à un être possédé produit chez l'observateur. Pour peu que la personne y croit un peu, il va interpréter des gestes, des mots comme la preuve irréfutable de l'existence de possession. Il faut dire aussi que les gens qui subissent ce symptôme, la possession, ce sont des gens qui sont plus ou moins au courant de ce qui atteint un exorciste. Donc on peut parler là d'une demande qui se déplace. C'est donc l'exorciste qui est mis dans la position de celui qui demande, et l'être possédé vient lui offrir ce qu'il lui demande. Montre-moi ce que je veux voir pour que je puisse te l'enlever. Il y a certainement des manifestations très bruyantes, mais c'est pas que dans ce qu'on appelle les possédés qu'on a des manifestations bruyantes. Il y a des tas d'autres entités psychopathologiques où le corps s'agite, où la parole se déchaîne, où on a une force non pas herculéenne, mais pulsionnelle qui est à l'œuvre. parce que justement la possession est un phénomène du corps, est un symptôme. Symptôme du corps où le corps jouit. Pour moi, qui dit mal, dit jouissance. Parce que la jouissance fait mal. Lord sustains me. Every need he has delivered. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Save yourself. Places her trust in thee, my God. Be unto her, O Lord, a fortified tower. In the face of the enemy.
Vos entretiens avec Alberto Velasco, il met aussi cette notion en place de dire que le prêtre jouit pendant un exorcisme.
Il dit pas ça comme ça, c'est pas possible. Non, j'ai pas éprouvé ça, c'est-à-dire qu'on est content quand on sent que la personne se libère sous vos doigts, là, sous vos yeux, quoi. Mais c'est pas... Non. Le mot jouissance me paraît un peu fort.
Est-ce qu'il n'y a pas un rapport inégal où en fait le prêtre il a quelque chose en main et la personne elle est peut-être soumise à son...
Oui, mais c'est bien ce qu'elle cherche. Elle cherche à se mettre sous l'influence de quelqu'un d'autre, l'autre étant celui qui lui fait du mal, qu'on l'appelle diable ou... Mais nous on leur a fourni un chemin en disant que Satan n'est jamais la bonne solution, quoi. Chercher une autre cause... ou un autre moyen pour en sortir que Satan, parce que là, ça peut vous conduire à rien, quoi.
Nécessaire, si l'on considère que dans la construction du savoir de l'homme sur lui, il a toujours gardé ce mot pour désigner un personnage qui est le représentant de tout ce que on ne peut pas mettre sur le compte de Dieu. Donc dans les religions monothéistes qui prônent toute l'existence d'un Dieu unique, tout ce qui sort du domaine du bien doit forcément être porté par un autre, être une autre instance. Donc, il a été nécessaire pour l'Église, ça c'est d'un point de vue général et religieux. Si je prends un peu l'idée freudienne, que la compulsion à la répétition a une nature diabolique, ça veut dire que l'être humain porte des symptômes dont il n'arrive pas à se débarrasser, porte des conflits qu'il ne souhaite pas mais qu'il subit, ou alors que le sujet rencontre toujours le même malgré lui, et que tout cela, Freud le qualifie de diabolique. Donc on peut comprendre que le nécessaire, si j'emploie le mot nécessaire, c'est au sens de le symptôme est nécessaire, puisqu'il est utile pour la réalisation de la personne, même s'il produit du malheur, même s'il ne le souhaite pas. Enfin, Lacan, il utilise une finesse en décortiquant le mot nécessaire, sur quelque chose qui ne cesse pas, sur quelque chose qui est constant, qui est régulier, qui ne s'arrête pas. Et donc, pour Lacan, le nécessaire, c'est ce que ne cesse pas de s'écrire. Et ma foi, on peut dire que de la même manière que pour la religion, le diable est toujours utile, il est toujours là, aussi, on peut dire aussi que le diable est nécessaire, car le sujet ne cesse pas de l'éprouver d'une manière ou d'une autre. C'est une autre façon de dire ce que Freud a dit de la pulsion, de la répétition et du malheur. Lacan le décline en termes de du nécessaire. Thank you.
était dans une imprimerie, en enfer. Et je vis la méthode par laquelle est transmis, de génération en génération, le savoir. Dans la première chambre était un dragon homme, balayant les gravats à la bouche d'une caverne. À l'intérieur, plusieurs dragons approfondissaient la caverne. Dans la seconde chambre était une vipère enroulée autour du roc et de la caverne, et d'autres ornant celle-ci avec de l'or, de l'argent et des pierres. Dans la troisième chambre, je vis un aigle dont les ailes et les plumes étaient d'air. Et il rendait l'intérieur de la caverne infini. Aux alentours, nombre d'aigles, pareils à des hommes, édifiaient des palais sur les rocs immenses. Dans la quatrième chambre, des lions de flammes ardentes tournaient furieux et fondaient les métaux en fluides vivants. Dans la cinquième chambre, des formes sans nom jetaient les métaux dans l'espace. Ceux-ci étaient reçus dans la sixième chambre par des hommes. Ils y prenaient l'aspect de livres et formaient des bibliothèques. Alors dis-moi, quelqu'un est logé en toi ? Qui est-ce ? Ça fait longtemps que c'est comme ça ? Si je l'interroge, tu le laisseras répondre ? Alors laisse-le parler. Veux-tu le laisser parler ?
Tout le monde parle du retour du diable et personne ne l'a vu. Alors, pour moi, c'est le mot qui circule davantage. Et donc, le mot qui circule davantage, c'est qu'on l'utilise de plus en plus pour décrire des choses qui échappent à notre compréhension ou des situations où l'on tombe dans l'excès. Dire que l'un des mots que l'on peut associer au diable, c'est le mot excès. Je pense que ça éclaire un peu. Le diable, c'est le summum de l'excès. Aujourd'hui, on jouit, ça jouit. Et c'est un peu l'impératif surmoïque, un impératif féroce. L'impératif surmoïque pourrait être associé ou assimilé à l'impératif diabolique, jouit. Donc l'inconscient, le surmoi, n'est pas là pour culpabiliser seulement, au contraire pour pousser à la jouissance. Et je pense que si on parle aujourd'hui, au XXIe siècle, du retour du diable, c'est parce qu'il y a un pouce à la jouissance un peu partout. C'est le mot d'ordre actuel, c'est « j'ai le droit de jouir ». Et donc, je pense que c'est plutôt pour ça qu'on parle du retour du diable. Non pas parce qu'on l'ait vu, j'ai pas entendu parler de quelqu'un faire des témoignages comme on fait des témoignages ou des extraits de vidéos sur les ovnis ou autres. Il est de retour dans l'univers du langage, mais ça a toujours existé. On ne va pas le faire disparaître comme ça. Donc on l'utilise pour qualifier quelque chose que l'on subit. Et c'est quelque chose qu'on subit qui est de l'ordre de l'excès et souvent appelé diable, diabolique, d'une manière plus.
Oui, dans une rêve partie, quand on, pendant toute la nuit, on chante Satan come up, come up, come up, ben, eventually, you know, it comes up. On invite le diable à venir, ben il vient.
L'exorcisme. Montre-moi ce que je veux voir pour que je puisse te l'enlever. Une création radiophonique de Pierrick Mouton, réalisée par Vincent Deck. Avec Olivier Abel, philosophe, Maurice Bello, ancien prêtre exorciste, Georges Berson et Jean-Pascal Duloisy, prêtre exorciste responsable du service de l'exorcisme de Paris, Gilles Boucomont, pasteur de l'église protestante de Belleville, Michael Langlois, historien, et Alberto Velasco, psychiatre et psychanalyste. Musique originale inspirée par l'accord du diable. Composée et interprétée par Jim Grandcamp. Texte lu par Déborah Claude. L'expérience, Aurélie Charon, Inès Duperron.
Dimanche prochain, l'expérience sera roumaine, avec Chasseur. Amandine Cazadamon est partie en Transylvanie dans les Carpates, assister à une battue dans les montagnes de la région de Sibiu. On vous invite à venir l'écouter en avant-première et en son immersif au Musée de la Chasse et de la Nature. Ce sera à Paris, mercredi 27 février à 19h. Il est minuit, vous écoutez France Culture. L'expérience, la création, ça continue.